Bonjour et bienvenue à tous sur notre web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Votre émission Culture Flip, produite et animée par les étudiants de BUT Gestion Administrative et Commerciale. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léa Laprod.
Bonjour.
Il y a Léonie à la com.
Bonjour.
Juan à la technique.
Salut.
Et moi-même, Zai, votre animateur préféré. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler culture, notamment de la nouvelle saison de la série Validée, de l'événement Harley Davidson à Ardelot et de l'étonnant musée de Roubaix. Puis pour finir, du film Bac Nord. Dès maintenant, nous allons commencer avec l'étonnant musée de Roubaix qui vous sera présenté par Léonie. Alors Léonie, parle-nous de ce musée à Roubaix.
Donc le musée à Roubaix, donc, c'était une ancienne piscine. Elle a été construite en 1922. Donc c'était la piscine de la rue des Champs. Elle avait fermé en 1985 et il y avait un projet de la réhabiliter qui venait de Didier Schulman, mais il ne savait pas vraiment quoi faire. Il voulait faire un musée aussi, mais il ne savait pas où le mettre. Et l'idée de la faire en piscine n'est pas venue tout de suite. Donc Didier Schulman aussi, donc il faut savoir que ça a été un conservateur au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou. Il a été chef de service de la bibliothèque Kandinsky et conservateur du patrimoine. Donc à ce moment-là, dans la ville de Roubaix, les seules expositions qu'on pouvait voir, elles se situaient à l'hôtel de ville lors d'événements ponctuels. Il n'y avait donc aucun musée dans la ville, donc un grand manque de culture pour les habitants. Ensuite, 3 ans plus tard, il y a une œuvre qui est en acquisition par le Louvre, donc le Saint-Thomas, et elle devait passer donc par Roubaix, et l'œuvre elle est considérée comme patrimoine national. Donc Didier Schulman il va organiser la révélation de cette œuvre, ainsi que la présentation des tableaux emblématiques roubaisiens. Donc les tableaux ils ont connu un franc succès, et le projet de réhabiliter la piscine il peut donc commencer. L'idée n'est pas venue tout de suite, parce que d'après le site officiel de la piscine de Roubaix, il faudra attendre 1990 que le conseil municipal y valide cette idée, lancée par la nouvelle équipe de conservation du musée. Donc une salle est ouverte à l'hôtel de ville afin de présenter les collections du futur musée. Les œuvres y sont exposées proviennent du musée national de la ville de Roubaix qui avait fermé auparavant. La piscine musée ouvrira donc ses portes en octobre 2001, soit il y a 20 ans. Donc elle recevra des dons importants des musées nationaux tels que le musée d'Orsay, le musée national d'art moderne et du fonds national d'art contemporain. Afin de garder l'esprit de la piscine mais de la transformer en musée, un fonds d'art a été appliqué dans l'ancien bassin. Ensuite on a les cabines de douche et de déshabillage qui sont transformées en cabinets de vitrines et consultations. On a l'ancienne buvette qui a tout simplement été transformée en restaurant du musée et la boutique qui prend place dans la salle des filtres. Une collection Beaux-Arts a été disposée sous forme d'un parcours chronologique et thématique dans les salles de baignoire afin de délimiter une nouvelle scénographie. Il y a aussi des créateurs qui ont décidé d'y mettre une mosaïque à décor marin. Donc elle évolue grâce à de nombreuses sculptures décoratives et impressionnantes et surtout grâce à un Neptune en grès. Ensuite, on a le bassin qui est recouvert d'un plancher qui peut accueillir des réceptions, des expositions et même des défilés de mode. Donc la piscine à Roubaix, ce n'est pas le seul bâtiment à connaître une sorte de seconde vie. Il peut y avoir de nombreux établissements qui vont être destinés à devenir autres que leur première utilisation. Donc on a notamment une quinzaine d'églises qui ont été transformées en habitations à travers le monde. Donc on a une église gothique qui a été transformée en habitation à Londres. Donc la demeure elle s'étend sur 500 m². Et on n'a pas aussi que les églises et les piscines qui ont connu une reconversion, notamment une école qui a été réhabilitée en siège du parc national régional des Landes de Gascogne. Ensuite, on a une prison qui est devenue un centre médico-social à Blaye en Gironde et des bains-douches qui sont devenus une bibliothèque municipale à Bousca en France. Et en France aussi, on a un phare qui a été transformé en musée. Donc ça suit l'histoire de la piscine de Roubaix. Donc les reconversions de ces bâtiments sont surtout eu lieu entre 1980 et 2003, tout comme la piscine. Donc cette période, elle marque un moment de reconversion de bâtiments qui n'avaient plus d'utilité. Donc la piscine de Roubaix, c'est donc un exemple de reconversion de bâtiment et qui a toujours un moyen d'avoir un lieu de culture. Les autres bâtiments y mettent en évidence que, plutôt que de détruire un lieu, on peut lui donner une autre utilisation que sa première vocation. Merci de votre écoute.
Eh ben écoute, moi j'ai trouvé cette histoire vachement intéressante parce qu'en fait on voit que les bâtiments qui ne servent plus, qui sont laissés à l'abandon, eh ben, en fait ils peuvent être recyclés au même titre que des déchets en fait, et je trouve ça intéressant. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Léa?
Oui, ben moi pareil, je trouve ça bien qu'on peut donner une deuxième vie aux bâtiments, comme quoi on ne peut pas les laisser comme ça, et ils servent à autre chose, quoi.
Bah oui.
Et donc en fait on voit aussi que ces bâtiments, eh ben, ils vont permettre non seulement d'être recyclés, mais en plus de favoriser la culture, parce que forcément la culture se perd un petit peu plus, surtout les musées,
Ouais.
pour la jeunesse, etc. Donc c'est vachement intéressant. Et dis-moi justement, est-ce que ce genre de bâtiment, ce genre de recyclage, il se démocratise ou pas?
Ben, plus tôt, on en a eu quand même pas mal. Là, notamment, on a une église qui est à vendre sur Tourcoing. Donc, c'est juste à côté de Roubaix. Peut-être que la ville pourrait décider de la racheter et de faire la même chose pour agrandir sa culture, quoi.
D'accord, ben, c'est super. Dès à présent, nous allons passer à la deuxième chronique, celle de Rohan. Et donc, c'est à lui de nous parler de cet événement Harley-Davidson qui a eu lieu en septembre 2021.
Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma chronique. Comment Harley-Davidson se fait-il une place dans la culture? Harley-Davidson va faire ses débuts en 1903, où William Harley et Arthur Davidson ils vont construire un prototype de bicyclette motorisée dans la cuisine de la mère d'Arthur. Ce prototype il sera nommé la Silent Grey. Au fil des années, ils vont créer d'autres modèles et il va y avoir un engouement autour de la marque qui va être assez conséquent. En effet, on va avoir des rassemblements de passionnés qui vont avoir lieu, mais aussi des films qui vont sortir, comme par exemple The Wildwood et Easy Rider, donc qui vont sortir entre les années 1950 et 1960. Ces films ils vont renvoyer vers une image rebelle des personnes conduisant des Harley, donc on va les définir comme des hommes grands, musclés, barbus, hors la loi, avec des motos bruyantes et un style vestimentaire particulier, comme par exemple des vêtements en cuir, des grosses bottes, mais aussi avec une culture musicale qui va être basée sur des musiques rock'n'roll et de metal. Ici, on a vraiment une stigmatisation de la communauté Harley, qui peut par exemple amener certaines personnes à émettre des préjugés. Donc par exemple, lors de l'achat d'une moto, une personne elle peut ne pas choisir Harley, car elle va se dire « Ok, je rentre pas dans les codes de la communauté Harley ». Cette stigmatisation, pardon, elle est aussi causée par différents gangs qui vont se créer, comme par exemple les Hells Angels et les Vagos, et même bien d'autres encore qui ont terni l'image de marque. Donc moi, étant attiré par les Harley-Davidson et voulant me rendre compte de la véritable culture de ce groupe de motards, je me suis rendu à un rassemblement Harley donc, qui s'est déroulé à Ardelot le 18 septembre 2021 comme la Disaï, et tous les préjugés sur les membres de la communauté Harley qui ont des motos bruyantes, qui sont grands, avec des grosses barbes, et tout ce dont j'ai pu parler un peu plus haut, ils se sont estompés. Donc dans cette communauté, on va pouvoir retrouver différentes cultures. On va avoir des personnes qui sont passionnées d'art, qui vont réaliser des œuvres sur leur moto, avec des peintures qui vont être incroyablement élaborées, et un temps de travail sur celle-ci qui va être inimaginable. On va aussi avoir différentes cultures musicales, qui pour le coup, c'est souvent assez des musiques rock'n'roll, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on va en retrouver d'autres, comme par exemple du rap US. Le stéréotype Harley égale rocker ou fan de métal, il ne s'est pas révélé totalement véridique. Au niveau de la culture vestimentaire, il n'y a pas que des gens aussi qui vont être vêtus de la tête aux pieds en cuir. Il y a aussi des personnes qui vont être habillées simplement avec des baskets, des jeans. Mais aussi, on va avoir des personnes qui vont être plutôt bien habillées avec des chemises. Il faut savoir que j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. On avait aussi beaucoup de jeunes motards et de femmes qui sont venus pour cette occasion avec leur Harley Davidson. Et ça casse aussi beaucoup le cliché selon lequel la marque elle est exclusivement réservée aux hommes qui sont virils et durs à cuire. Ici, on a donc une culture qui est assez variée, que ce soit au niveau de la culture vestimentaire, musicale ou encore artistique. Dans cette communauté, il y a une culture qui va être assez ouverte. Chacun va apporter sa différente culture et échanger sur celle-ci. Par ailleurs, on a pu retrouver lors de cet événement des étrangers, tels que des Allemands, des Portugais, mais aussi des Anglais. Donc là, ici, on va pouvoir faire un lien avec une notion de marketing, qui est la notion de Bado et Kova, qui comprend le marketing communautaire. Parce qu'en fait, Harley... la marque Harley va réduire sa consommation et en fait elle va être faite directement par la communauté en elle-même. Donc personnellement, si je devais mettre deux mots sur cette culture donc de la communauté Harley, ce serait convivialité et partage. On ne se sent pas du tout à l'écart avec cette communauté, on peut passer un moment qui va être convivial et de partage, et ça, peu importe la culture que vous avez, qu'elle soit pareille, différente des autres, personne ne va vous juger et tout le monde vous acceptera comme vous êtes. On va pouvoir en conclure sur une citation de Gary Dodd qui dit « Les pilotes de Harley restent des pilotes de Harley, il y a toujours cet esprit de communauté. »
Alors, moi, j'ai quelques petites questions. D'ailleurs, merci, Rohan, pour cette superbe chronique avec le rock and roll.
Pas de souci.
Du coup, je voulais savoir, alors pour les plus spécialistes dont tu fais partie, hein, quels sont les styles de moto que les jeunes préfèrent de nos temps ?
Alors, lors de ce rassemblement, donc je connais que quelques motos, mais lors de ce rassemblement, c'est vrai que j'ai vu plusieurs jeunes avec souvent des 48. Donc, en fait, les jeunes, ils vont privilégier le bruit et le style comparé aux plus âgés, eux, qui vont privilégier donc, le confort. Donc, on va retrouver vraiment des motos imposantes pour les plus âgés avec la radio, le GPS et tout intégré. Alors que sur les motos des jeunes, justement, donc sur les 48, ça va plus être le bruit et pas beaucoup de technologie, en fait.
Et donc, toi, t'en penses quoi, Léonie, un peu de ce stéréotype Harley, etc., de Harley, la marque, etc., dis-nous.
Bah, c'est vrai que quand on pense à une personne qui a une Harley, on voit un gros barbu, veste en cuir, bottes en cuir, tout ça. Et qu'avec ce que dit Rohan, bah, on se rend compte que c'est pas vrai, genre qu'il y a de tout type de personnes, que c'est pas un seul type de personne qui a une Harley, quoi.
Ouais, c'est donc, vrai. Voilà. Et toi, Léa ?
Ben moi, je trouve ça bien qu'on ait une vision extérieure avec Rohan qui est allé, parce que il est pas... Enfin, Rohan, c'est pas quelqu'un qui conduit des Harley toute la journée, tout ça, juste c'est une personne d'extérieur à l'événement. Ouais. Et du coup, je trouve ça bien qu'on ait une vision extérieure comme ça, pour mieux se rendre compte des stéréotypes qui sont été donnés.
C'est vrai que je conduis pas de Harley, d'ailleurs, j'ai pas le permis moto.
Bientôt, on l'espère.
Ouais. J'espère.
Bon, du coup, maintenant, nous allons passer à la chronique de Léa, qui va parler notamment de la série Validé. Donc, je t'en prie.
Alors, Validé, c'est la nouvelle série événement du moment. Elle est diffusée sur Canal+, et est composée de 2 saisons, avec la saison 2 sortie récemment, donc plus précisément le 11 octobre, et qui bat déjà les records d'audience avec 200 000 téléspectateurs pour le premier épisode de celle-ci. Validé est réalisée par Franck Gastambide. Elle raconte l'histoire d'un jeune livreur de drogue, qui s'appelle Clément, alias Apache dans la série, toujours accompagné de ses amis William et Brahim. Clément a pour rêve de devenir rappeur. Un jour, une livraison qu'il effectue en bas de la radio Skyrock va lui permettre d'entrer dans l'émission spéciale consacrée à Mastar, une légende du rap français. Le manager de Mastar va valider Apache, malgré que notre légende ne l'aime pas, dans le but de se donner une bonne image. Apache va devenir de plus en plus connu dans le milieu du rap, ce qui va entraîner beaucoup de jalousie autour de lui, surtout de la part des habitants de son quartier, et lui apporter de nombreux problèmes. Alors, puisque cette série est axée sur le rap, on peut se demander si elle est inspirée de la réalité. Il est donc vrai qu'une quinzaine d'événements dans la série sont inspirés de faits réels dans l'histoire du rap, expliqués par Mireille Ratsimbazafi dans NextPLZ le 23 avril 2020. Tout d'abord, lorsque Mastar achète toutes les places du concert d'Apache pour qu'il se retrouve seul durant celui-ci, cela fait référence à 50 Cent qui a acheté toutes les places du premier rang du concert de J-Rule en 2018. Ensuite, Apache se fait connaître en prenant le micro dans l'émission Planète Rap de Skyrock alors qu'il n'y était pas invité. Il finit même par clasher Mastar, cette légende du rap. Dans la réalité, ceci s'est produit en 2011, où le rappeur Fianso s'était également invité dans l'émission Planète Rap afin de clasher Fababy. Ou encore, quand le premier album d'Apache, certifié disque de platine, a été volé par des habitants de sa cité et montré sur Instagram. Cela s'est réellement passé avec Lafouine, lorsque son trophée du meilleur artiste français MTV Music Award en 2011 a été volé et exposé sur les réseaux sociaux par Binash et Booba. Je trouve ça très intéressant de s'inspirer de faits réels pour raconter l'histoire d'un jeune rappeur, ce qui rend l'immersion encore plus vraie. Dans cette série, certains personnages sont joués par des rappeurs. Apache, le personnage principal, est interprété par Attic, Carnage par Bosch, Brahim par Brahim Bouel, ou encore William, joué par Saïdou Camara. Nino et Soprano font une très courte apparition dans la saison 1. Nous voyons donc que le rap a de plus en plus d'influence dans le cinéma aujourd'hui. Raconté par Loïc Mathias pour Artistique Réseau le 16 janvier 2021, il est né dans la rue aux États-Unis au début des années 70 avec des textes revendicateurs plus importants que l'instrumental. Les premiers titres de rap racontaient souvent la vie ou certains événements vécus par l'artiste. Le rap est arrivé en France en 1979 avec le groupe américain Sugar Hill Gang qui ont vu leur titre Rapper's Delight connaître un succès mondial. Suite à cela, de grands rappeurs internationaux sont nés comme Snoop Dogg, MC Solar ou IAM. De nombreux films et séries sont axés sur la culture du rap en France. Gabi Mellet, le 21 mai dans Culture Addict, nous raconte que ça a commencé avec Joey Star, qui a été le premier rappeur à jouer dans des films. Son premier a été Old School dans les années 2000. Il est par la suite devenu un véritable acteur avec plusieurs réussites comme le film Police de My Wayne. Après ses succès, de nombreux rappeurs lui ont donc succédé comme Nekfeu, Cringe, Kaaris ou Sadek. Tandis que des rappeurs jouent comme acteurs dans des films, d'autres composent des musiques pour certains films. Expliqué par Maxime Delcourt le 9 septembre 2020 dans Red Bull, il y a Ruff de Nekfeu pour le film Five, l'Algérino avec sa musique Va Bene pour Taxi 5 il y a 3 ans, également réalisé par Franck Gastambide, ou encore Inachevé de Casseur Flotteur pour le film Comment c'est loin en 2015. D'autres films très connus sont aussi axés sur le rap, comme Fatal en 2010 ou plus récemment Banlieusard.
Eh bien, très bien Léa. Dis-nous un petit peu, je ne sais pas si tu as vu la série Validée, mais qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, j'ai vu la série et je trouve que l'alchimie entre le rap et le cinéma, elle permet aux plus jeunes de s'intéresser davantage au grand écran par le biais de leur artiste préféré. Donc, en voyant leur artiste au cinéma, ils vont se dire « bah tiens, cette série, elle m'intéresse », donc ils vont découvrir. Et ça va les faire rentrer dans le monde du rap et découvrir comment ça se passe vraiment vu de l'intérieur.
Ouais, et puis j'ai surtout l'impression que cette série, au-delà du fait que ce soit des rappeurs qui viennent dans le cinéma, c'est carrément une série dédiée à comment des rappeurs peuvent intégrer, enfin comment de jeunes rappeurs qui n'ont pas de notoriété.
Par la suite,
voilà, comment ils
vivent avant et comment ils sont rentrés dans le rap et ils en sortent.
Exactement. Du coup, je sais pas, Rohan, est-ce que t'as vu la série, toi ? Ou alors, d'après ce que Léa elle dit, ce que t'en penses ?
Alors non, moi j'ai pas du tout vu la série, mais j'en ai entendu parler un petit peu. C'est vrai que je trouve ça plutôt pas mal que, qu'on inclue les rappeurs dans le cinéma pour expliquer leur histoire. C'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant.
Et toi, Léonie, t'en as pensé quoi ? Est-ce que déjà tu l'as vu et aussi ce que t'en as pensé ?
Non, bah j'ai pas vu la série, mais c'est vrai qu'avec ce que Léa elle dit, bah, je vais peut-être la regarder. Parce que ça a l'air pas mal, genre de voir comment ils peuvent être dans le rap, tout ça, comment ils peuvent monter et tout ce qu'ils ont à faire, quoi.
Eh bien, nous vous invitons tous à aller regarder cette série qui a l'air de se faire intéressante. Et puis pour finir, eh bien, on va parler du film Bac Nord, qui ne remportera aucun Oscar, mais semble-t-il le cœur des Français malgré les polémiques. Car oui, c'était le 12 octobre 2021 que le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée devait rendre son verdict concernant le film qui représentera la France lors de la 94e cérémonie des Oscars à Los Angeles le 22 mars 2022. Et c'est le film Titane de Julia Ducournau qui a été récompensé par la Palme d'Or du Festival de Cannes qui a eu l'occasion de partir aux Oscars. Mais par contre, le film Bac Nord, lui, n'a pas cette occasion. Il est vrai que ce choix semble étrange au vu du succès du polar Bac Nord qui s'est quand même classé 3e place des films les plus vus de 2021 à l'échelle nationale et qui a engrangé près de 2 millions d'entrées depuis sa sortie le 18 août 2021. C'est par ailleurs son réalisateur Cédric Jiménez qui vantait les mérites de ce film, film qui reste à l'affiche de 375 salles, dira-t-il. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, eh bien qu'est-ce que Bac Nord ? C'est un film qui s'inspire de faits réels de 2012 pour retracer la vie rude et les méthodes controversées de trois flics de la brigade anticriminelle pour améliorer coûte que coûte leurs résultats, car hélas, les quartiers nord de la ville de Marseille affichent un taux de criminalité des plus importants de France. Mais ça, c'est jusqu'à ce que leur hiérarchie leur tourne le dos et dénonce ces méthodes de travail qu'eux-mêmes appliquées. Alors, comme l'a dit brillamment Adèle Exarchopoulos, qui incarne Nora dans le film, pour le magazine Elle, c'est un, je cite, « western contemporain, mais avec un fond sociétal très fort ». Alors, en effet, bien que ce film soit haletant, rythmé par de nombreuses cascades, c'est avant tout une volonté du réalisateur de s'inspirer des grandes lignes du récit, de cette affaire de corruption qui date de 2012 et qui avait causé de nombreuses polémiques, de nombreux débats, et surtout la dissolution de la fameuse Bac Nord, la suspension de 30 fonctionnaires de police. Et le réalisateur affirme que les policiers impliqués dans cette affaire ont trouvé que le film résumait bien ce qu'ils avaient traversé et la trahison de leur hiérarchie. Il explique d'ailleurs qu'il a attendu d'avoir suffisamment d'informations pour se lancer réellement dans l'écriture et précise que l'impartialité est la condition sine qua non de l'existence de ce projet. Ne pas condamner ni disculper et s'y tenir tout au long du récit, un exercice passionnant car il consiste à pointer les contradictions internes de chacun à l'intérieur de chaque système. Et donc ça, c'est ce qu'on peut lire dans l'article intitulé « Bac Nord de la réalité à la fiction » qui a été rédigé par le CNC et que je vous conseille d'aller consulter pour mieux comprendre ce qu'est le travail d'un réalisateur, car l'implication du réalisateur y est pour beaucoup, et notamment dans les recherches avant de se lancer dans l'écriture. Alors malgré cela, le film suscite de nombreuses polémiques, notamment politiques, puisque d'abord ce sont des journalistes qui accusent le film d'être axé extrême droite du point de vue des policiers, etc. Mais aussi les candidats à l'élection présidentielle, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui sont servis du film pour illustrer leurs propos quant à l'insécurité dans certains quartiers. Et ça, vous l'imaginez, ce n'a pas plu au réalisateur qui s'est empressé de condamner cela dans le journal Aujourd'hui en France. Je cite « La récupération politique est déplorable et malheureusement, on l'a subi. Zemmour et Le Pen déforment le propos du film. J'ai montré la cité dans un contexte très particulier. » Et pour contrecarrer d'ailleurs ces propos, c'est l'acteur principal du film, Gilles Lellouche, qui s'est exprimé pour le magazine Elle, ou encore dans l'émission C'est à vous, et qui expliquait qu'en fait, on a beaucoup de préjugés sur les quartiers nord, et il a d'ailleurs été mis en garde sur ces préjugés. Et finalement, une fois sur les lieux, il déclare avoir été interloqué par l'ambiance qui régnait. Je cite « On s'est retrouvé avec des gamins qui étaient hyper heureux de participer au film, qui étaient joyeux, enthousiastes, simplement parce qu'ils étaient considérés et valorisés. » Et donc c'est ainsi que nous nous rendons compte de l'aspect fédérateur de la culture, et comme le résume bien Gilles Lellouche, le temps de ce tournage, il y a une sorte de cohésion sociale. Alors, de l'extérieur, peut-être que passer des quartiers nord de Marseille à la cérémonie des Oscars de Los Angeles, la marche est haute, mais ça n'a pas empêché le film de monter celle du Festival de Cannes et de faire un carton dans l'Hexagone. Alors, maintenant que j'ai présenté un petit peu le film Bac Nord, je ne sais pas qui l'a vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu parmi vous ou pas ?
Non.
Alors non, pas du tout.
Non. Et alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, Rohan, je te laisse la parole.
Alors, c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment bien, en fait, de faire des films en reprenant des histoires qui sont réelles, en fait. Ça nous permet d'expliquer, peut-être des fois un peu dans les grandes lignes, un petit peu déformées des fois, mais ça nous permet en fait d'expliquer la situation et c'est une chose que je trouve vraiment bien en fait.
Surtout que le réalisateur a bien fait attention de rester impartial et de bien exposer tous les points de vue pour exposer aussi ce qui est bon et mauvais dans chaque partie. Merci Rohan. Léonie, toi t'en as pensé quoi un petit peu ? Est-ce que ça te donne envie d'aller le voir déjà ?
Ben ouais, je pense que c'est un film peut-être qui pourrait m'intéresser. Et il a quand même fait polémique, notamment auprès de personnalités politiques. Donc c'est un film qui est un peu engagé, on peut dire.
Ouais, ça c'est sûr.
Donc voilà.
Mais moi, pour rebondir sur ce que Rohan a dit, je trouve ça bien pareil, les films inspirés de faits réels. Et je trouve ça même mieux que, par exemple, moi je vais tomber sur un article d'un fait réel, Enfin, c'est rare que je vais me dire, bah tiens, je vais lire ça. Mmh. Alors que si je le vois sous forme d'un film, bah, ça me paraît plus intéressant. Enfin, c'est imagé, en fait. Et ouais. C'est vachement mieux que de lire des lignes comme ça.
Ouais, c'est sûr. Et puis, d'ailleurs, je tiens à préciser, en plus, c'est ce que j'ai trouvé, moi, personnellement, le plus intéressant, c'est que, en fait, sont tous les préjugés qui ont disparu sur le lieu du tournage. Il explique, alors je ne l'ai pas bien approfondi, mais en fait, lors de ses interviews, il explique carrément qu'il y avait des jeunes avec des bracelets électroniques, etc., qui venaient participer au film et qui prenaient un plaisir fou et qui rigolaient. Ils étaient tous ensemble à la cantine, voilà, tout ça. Et donc, on voit que vraiment, ça a été, comme il le dit, hein, il y a une sorte de cohésion sociale lors de ce tournage. C'est extrêmement bien dit. Voilà.
Et puis, ils ne se sentent pas jugés, quoi. Même malgré leur bracelet, ils ne se sentent pas jugés par
voilà, et puis ils se sentent considérés.
C'est... Ouais, c'est convivial, en fait.
Voilà, ouais. Ça a été une bulle, l'instant du tournage, oui. Et j'ai trouvé ça bien. Et c'est dommage qu'il y ait encore des histoires aujourd'hui de fusillades, ouais. Etc. Et j'espère qu'avec le futur, la culture, elle aidera à ce que ça change. Voilà.
Ouais, ouais. Je crois qu'on l'espère tous.
Ouais. Oh, c'est déjà la fin de notre émission.
Oh non, déjà.
Et oui. Mais en tout cas, un grand merci à toutes les personnes sans qui rien n'aurait été possible. Alors tout d'abord, vous tous, Léa, Léonie, Rohan.
Merci à toi, Zaï, aussi.
Ouais, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors merci à vous déjà pour votre implication dans l'émission comme dans les coulisses. Merci à l'IUT de nous avoir fourni le matériel nécessaire. Mais surtout, merci à vous, chers auditeurs, qui donnez un sens à ce projet, car sans vous, ce dernier n'aurait pas de sens. D'ailleurs, si vous voulez retrouver... toutes nos autres émissions et celles de nos collègues, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'IUT www.studiogalco.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.
Merci, salut.
Au revoir.